Et bientôt 8h en temps universel, on ouvre ce matin une série jusqu'au 9 juin sur RFI. Chaque dimanche, le tour du monde des correspondants sera consacré aux élections européennes. 3 escales chaque semaine, 2 dans une capitale européenne pour comprendre quels sont les thèmes qui s'imposent dans les différents pays membres qui s'apprêtent à élire leurs eurodéputés. Les enjeux nationaux qui viennent aussi parfois brouiller cette campagne. Et puis, une 3e étape en dehors de l'UE pour voir comment la campagne est observée, suivie ou pas. On commence aujourd'hui en Italie où tous les grands partis ont un point commun. Ils ont pris du retard dans la préparation de leur programme et de leur liste de candidats. Par ailleurs, Anne Lenir, les questions européennes ne sont pas au cœur des débats.
Pour le moment, les débats se concentrent sur des défis nationaux, dont l'intégration des migrants, en raison d'une ribambelle d'élections locales regroupées avec les européennes. Cela dit, au sein de la majorité, les dissensions s'accroient entre la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, leader de Fratelli d'Italia, mais aussi des conservateurs et réformistes européens, et le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, chef de la Ligue affilié à Identité et Démocratie. Loin de briller comme par le passé, Salvini espère récupérer des voix avec ses ambitions souverainistes. Moins eurosceptique, Meloni table sur sa légitimité au niveau international pour un succès écrasant de son parti. Du côté de l'opposition, le parti démocrate d'Eli Schlein est empêtré dans des affaires de corruption électorale instrumentalisées par le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte. Au final, toutes ces chamailleries pourraient entraîner un décrochage des Italiens pour le scrutin européen.
Anne Lenir à Rome, cap maintenant sur la Bulgarie où les élections européennes vont se jouer sur fond d'instabilité politique. Le pays poursuit aussi son intégration aux institutions européennes. Damien Vodenicharov.
Ces européennes seront les 8e élections en 3 ans. 5 législatives, une présidentielle, des municipales et des législatives anticipées qui pourraient se tenir en même temps que les européennes. La lassitude risque donc de s'emparer des électeurs, surtout que les européennes sont de loin les élections les moins intéressantes. En 2019, le taux de participation était de 32% à peine. Malgré cet abstentionnisme, la Bulgarie demeure un des pays membres les plus pro-européens. 2/3 des Bulgares sont favorables à l'Union 15 ans après l'adhésion du pays. Pourtant, les nationalistes avancent dans les sondages. Renaissance, un nouveau parti d'extrême droite ouvertement pro-russe, devrait faire élire ses représentants sans difficulté. Il prône un retrait de la Bulgarie de l'OTAN, une Europe des nations et s'oppose à l'envoi d'aide à l'Ukraine. Le soutien de Sofia à Kiev est en effet un sujet très épineux en Bulgarie qui divise encore la société.
Damien Vodenicharov à Sofia. Et puis comment la campagne européenne est-elle vue hors de l'UE? On s'arrête aujourd'hui en Tunisie où elle est très suivie. Amira Sulem.
Les élections européennes vont non seulement être scrutées en Tunisie, mais il faut même dire qu'une partie de la campagne se joue ici. On en a souvent parlé sur les antennes de RFI. La Tunisie était en 2023 le premier point de départ des migrants vers l'Union européenne. Et donc, les dirigeants européens défilent depuis des mois à Tunis, avec une invitée qui, elle, multiplie les allers-retours en la personne de Giorgia Meloni, qui a fait 3 fois le déplacement jusqu'à Tunis et qui est à nouveau attendue dans la capitale tunisienne la semaine prochaine. Objectif, montrer aux Italiens qu'elle agit pour endiguer les flux de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Les questions européennes sont donc aussi, vous le voyez, des questions tunisiennes. Immigration illégale, visa, aide aux pays de la rive sud de la Méditerranée, ces thématiques qui sont au cœur de la campagne entrent en résonance avec l'actualité tunisienne. Il faut aussi préciser, la vie politique tunisienne étant désormais quasi inexistante depuis la prise des pleins pouvoirs par Kais Saied en 2021, et bien que les Tunisiens ont tendance à regarder ce qu'il se passe au-delà de leurs frontières. Un peu comme si la vie politique européenne et surtout française leur offrait une vie politique de substitution. Autant de raisons qui font que ce scrutin va être scruté de près depuis Tunis.
Amira Sulem est notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr.